Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est la dernière fois de la saison que nous retrouvons Franck Ferrand en direct sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en effet la dernière de la saison, mais nous allons mettre à profit, dites-vous bien cela, ces quelques semaines de vacances pour vous proposer à la rentrée une nouvelle formule. Du reste, nous ne serons pas vraiment absents cet été grâce aux rediffusions concoctées par Guillaume Vasseau. Et puis vous serez là Julia.
Et oui.
Puisque, et ça c'est une bonne nouvelle, nos auditeurs pourront vous retrouver tous les dimanches à partir du 22 juillet, de 10h à 11h du matin.
Exactement.
Cette nouvelle émission, la vôtre, s'appelle Campus et vous allez y révéler les coups de cœur musicaux de vos invités, c'est bien ça?
Mais c'est exactement ça, vous l'avez dit, à partir du 22 juillet, nous allons en quelque sorte diffuser la bande originale de la vie d'une personnalité. Ce sera l'occasion, à travers des musiques, d'évoquer les souvenirs marquants de son parcours. Moi par exemple, si je devais vous recevoir, si je devais vous inviter, Franck, je suis sûre qu'on écouterait Charles Trenet, je pense à la porte du garage, c'est juste. Puis aussi le tube de l'été 1972, Popcorn.
Mais comment vous savez ça? C'est incroyable.
C'est le premier succès de la musique électronique. J'ai tout bon ou pas?
Ah bravo, mais
merci,
c'est incroyable.
Merci à Guillaume et à Lorena.
Oui, j'allais dire, vous êtes bon renseignement.
Alors vous l'avez compris, le dimanche matin sur Europe 1, Confidence et Bonne Humeur seront au rendez-vous. Mais en attendant, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Oh ben sur les routes du Tour, les plates et celles qui montent, les goudronnées et celles dont les pavés sont une épreuve pour les coureurs. En effet, en cette veille de grand départ du Tour de France, je vous propose de nous plonger au cœur de son incroyable saga.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
A vu des images de ces champions aux allures de forçats, les moustaches en bataille et le torse bardé de boyaux en caoutchouc, des boyaux de rechange. Ils avaient à l'époque, ces pionniers de la grande boucle, des bécanes qui étaient très lourdes, elles pesaient 20-22 kilos. C'était des vélos très fragiles par ailleurs qu'il fallait réparer soi-même et en cas grave qu'il fallait porter à l'épaule pour finir l'étape à pied. C'était un véritable tour de force que de se lancer à l'époque dans une aventure pareille. Alors nous allons revenir sur ces années héroïques et revivre les grandes avancées du cyclisme, du contre-la-montre à l'étape de montagne. En passant par l'invention de la voiture suiveuse, nous allons évoquer les grands champions de ce siècle de Tours. Petit Breton et Octave Lapize, Henri Pélissier, Antonin Magne et la Pévie et le Duc et Copie et Robic, Bobet, Anquetil, Merckx. Il suffit, ces grands noms, de les prononcer pour sentir passer le souffle d'une grande épopée, celui d'une caravane et d'un peloton mythique que Jacques Perret, l'une des plumes françaises les plus douées du dernier siècle, confondait dans un même phénomène. Il parlait du cortège frénétique et tapageur du Tour de France. Alors au moment de sa naissance, en 1903, le Tour de France n'était pas la première course cycliste hors piste, il faut le dire. Depuis 12 ans déjà existait un Bordeaux-Paris, et puis on avait également créé un Paris-Brest et retour, donc on s'en allait de Paris, on allait jusqu'à Brest et on revenait à Paris. C'était des épreuves redoutables, mais c'était des épreuves ville à ville. Le Tour de France va être la première course par étape. Et quelles étapes ! Il faut parcourir 2428 kilomètres lors de la première édition du Tour de France en 3 semaines, du 1er au 19 juillet 1903 inclus. Or, tout ça se fait en 6 étapes. 6 étapes qui sont jalonnées par les plus grandes villes de France. Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes et Nantes-Paris. quand je dis Paris, le tour arrivait en vérité à Ville d'Avray. Vous imaginez, c'était des espèces d'étapes interminables. Chacune était en soi une véritable aventure. Le tour était parti de Montgeron, en bordure de la forêt de Sénart. Il était parti donc ce 1er juillet 1903 à 5h16 du matin sur un coup de pistolet tiré par le père Alran, qui était un vieillard désinvolte qui, cette fois-là, faisait office de starter. 60 concurrents pour ce premier Tour de France de toute l'histoire. Ils partent donc à l'intersection des routes de Corbeil et de Melun. Ils se sont réunis à l'auberge qui s'appelle le Réveil Matin. Ces 60 premiers concurrents du Tour de France, avec leurs grosses bécanes et leurs boyaux de rechange, viennent donc de partir. Mais se peut-on se demander comment est-ce qu'on est arrivé à ce Tour de France, d'où est venue l'idée de cette course cycliste? Eh bien, c'est là que la petite histoire croise la grande. Il faut déjà se remettre dans le contexte. On est dans une époque qui a été marquée depuis plusieurs années maintenant par l'affaire Dreyfus. Or, le journal Le Vélo, qui est le quotidien de sport de l'époque, qui tire à 80 000 exemplaires, un journal édité sur papier vert, Le Vélo est dirigé par le fameux Pierre Giffard, grand patron de presse. Il se trouve que ce Giffard est un Dreyfusard, c'est-à-dire qu'il soutient, qu'il défend l'honneur du capitaine Dreyfus. Ça, inutile de vous dire que ça déplaît forcément à une partie de son lectorat, ça déplaît à pas mal de ses actionnaires, dont le comte Albert de Dion, qui est un farouche anti-Dreyfusard, et ça déplaît naturellement à la plupart de ses annonceurs, à tous ceux qui auraient de la publicité à lui confier. Alors, on va décider de créer un autre journal concurrent au Vélo qui va s'appeler l'Auto-Vélo et qui lui tire sur papier jaune. D'où d'ailleurs ce sera l'origine du maillot jaune pour les vainqueurs d'étape. Alors à qui confier ce nouveau journal, l'Auto-Vélo? Eh bien à celui qui en a eu l'idée, qui est tout à fait un sportif dans l'esprit de l'époque, un ami de Pierre de Coubertin, le jeune Henri Desgranges. Il était clerc d'avoué, Henri Desgranges, mais il est surtout le chantre de la petite reine, le premier recordman de l'heure à bicyclette. Henri Desgranges est le véritable père du Tour de France.
Un train d'enfer interprété par Yvette Horner, puisque Franck Yvette Horner a établi sa popularité en accompagnant à 12 reprises, s'il vous plaît, la caravane du Tour de France.
Oui, alors vous avez bien compris que ce Tour de France, au départ, c'est une affaire de presse. On a créé ce nouveau journal, l'Auto-Vélo, au tout début du siècle. C'est un journal qui a fort à faire pour arriver à s'imposer face à l'espèce d'institution nationale qu'est le vélo de Giffard. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de l'Auto-Vélo va organiser un certain nombre de courses cyclistes pour essayer de faire parler d'elle et pour essayer d'aller titiller Giffard sur son terrain. Giffard finit par s'énerver, bien entendu, et en janvier 1903, coup dur, un tribunal condamne l'Auto-Vélo à amputer son titre. Ça deviendra désormais le journal L'Auto. Alors ça, c'est embêtant pour le nouveau journal qui tire sur papier jaune. Il faut réagir. Et pour réagir, il s'agit de créer l'événement. Quel événement créer? Eh bien voilà ce que Richard Lesclide, qui avait été le secrétaire de Victor Hugo et qui était le créateur du vélocipède illustré, voilà ce qu'il disait. Le meilleur moyen de populariser le bicycle consiste à organiser des compétitions susceptibles de frapper l'imagination des foules par leur ampleur et par leur fantastique. Bref, il s'agissait de créer une compétition cycliste. Reste à savoir laquelle. Il fallait quelque chose de fort pour arriver à clouer Giffard au tapis. Et c'est là qu'intervient l'idée d'un collaborateur du journal L'Auto. Il s'appelle Géo Lefebvre. Il a l'idée de créer une course qui sera plus longue que toutes celles qui peuvent exister. Un peu à l'image des six jours de la piste. Sauf que là, on ne sera pas sur un vélodrome, on ne fera pas des tours de piste, on sera sur les routes. Une course beaucoup plus longue que toutes celles qu'on n'a jamais pu imaginer. L'article 26 du règlement du premier Tour de France, celui de 1903, précise que tous les coureurs devront solder tous leurs frais de route. Ce qui, bien entendu, est très difficile pour la plupart d'entre eux. Ce qui fait que le 6 mai, on modifie ce premier règlement. On décide d'abord de réduire les droits d'inscription de 20 francs à 10 francs de l'époque. Et puis, on octroie à chaque coureur, par jour, par jour d'étape, on lui octroie une allocation qui va lui permettre de payer ses frais de route, tout simplement. Alors on est obligé, parce que tout ça est compliqué, d'abord au départ on n'a pas assez de concurrents, on est obligé de repousser le départ du premier tour, qui partira non plus le 1er juin comme prévu, mais le 1er juillet. Et c'est donc le 1er juillet 1903, la réunion à l'auberge du réveil matin près de la forêt de Sénart de nos 60 concurrents. C'est le début d'une des plus grandes aventures des temps modernes. Alors parmi les 60 premiers concurrents de ce premier Tour de France 1903, il y avait un peu toutes sortes de coureurs. Il y avait des coureurs de vitesse, il y avait aussi, disons-le, des touristes routiers, toutes sortes d'indépendants. Ce qui va donner, évidemment, à cette première course, et disons-le, aux courses des premières éditions, un côté pour le moins pittoresque. Ce qu'il faut bien noter, et n'oubliez pas ça, c'est que ce Tour de France, au départ, est bien un événement créé par la presse. Et ça, en Europe, c'est une première. Au lieu de relater des événements existants, ce qui avait toujours été le rôle de la presse jusqu'ici, eh bien, on se met à créer un événement sur mesure. On fabrique de l'événement. Ça, c'est à la base de tout le phénomène de Tour de France. Et j'ai envie de dire qu'à la limite, c'est ce qu'on pourrait retrouver jusqu'à nos jours. Nos 60 concurrents sont donc partis, fait très chaud, hein. Il faut imaginer qu'ils étaient partis avec des chandails et des cols roulés, des chandails à manches longues, on est en plein été donc il va falloir s'adapter. Ils n'ont pas seulement sur eux des chambres à air de rechange, ils ont tout un fourniment d'outils, ils ont même des lanternes à acétylène parce qu'il faut vous dire que les étapes sont très très longues et que certains des concurrents n'arrivent que bien après minuit. Henri Desgranges est resté à Paris, il y a un seul contrôleur sur place, c'est Géo Lefebvre. Or il n'a pas d'automobile parce que l'auto à l'époque, ça marche moyennement, c'est très aléatoire. Donc, il a prévu l'itinéraire en fonction des gares de chemin de fer et des postes téléphoniques. Et les journalistes même suivent en train et se ruent sur les rares postes téléphoniques pour envoyer leurs articles à Paris. Ce qui fait que le Tour de France se fait en partie à vélo pour certains d'entre eux, les plus courageux, et puis pas mal par le train. On retrouve les concurrents chaque fois à l'arrivée, ce qui donne lieu à toutes sortes de scènes cocasses. On ne reconnaît pas les concurrents, ils se battent entre eux. Enfin bon, Maurice Garin sera le premier vainqueur de ce premier Tour de France, sauf que ce Maurice Garin, il va bientôt devenir un véritable ennemi pour ses concurrents. Et j'ai envie de dire, à l'époque, tous les coups sont permis. Le Tour de France est terminé, écrit en 1904 Henri Desgranges, hein, son créateur. Il est terminé, je le crains, cette édition aura été la dernière. Il sera mort de son succès, des passions aveugles qu'il aura déchaînées, des injures et des sales soupçons qu'il nous aura valu, des ignorants et des méchants. Oh, il est très pessimiste, Desgranges, puisqu'en vérité, le Tour de France va durer. À partir de 1910-1911, on crée des étapes de montagne. Ils nous feront crever, disent certains des cyclistes. Et puis, à partir de 1909, on a mais les coureurs étrangers, des Luxembourgeois, des Italiens, des Belges et plus tard seulement, en 1920, on va créer les étapes contre la montre pour donner un peu de nerf à tout ça. C'est peu à peu le Tour de France tel que nous le connaissons qui se dessine d'année en année. Il a chaque année plus de succès.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et chez Franck Ferrand, le Tour de France part avec une journée d'avance, mais un siècle de retard, puisque c'est toute l'épopée du plus grand des événements sportifs que nous allons revivre tous ensemble cet après-midi sur Europe 1, en compagnie bien entendu, Franck, de vos invités.
Et avec qui s'entretenir du Tour de France sinon avec Jean-Paul Olivier, évidemment, grand spécialiste de l'histoire du cyclisme, un peu l'homme du vélo chez France Télévisions, et qui me disait pendant l'interruption qu'il suit le Tour de France depuis 1975. C'est bien ça, Jean-Paul Olivier ?
Tout à fait, 75. Première arrivée sur les Champs-Élysées.
Donc vous avez évidemment énormément de souvenirs extraordinaires. Vous avez sans doute aussi des souvenirs du Tour de France d'avant. On y vient dans un instant et je remercie Alban Lepoivre d'être avec nous. Il fait partie sur Europe 1 de l'équipe qui va suivre le Tour. Vous vous apprêtez à partir là ?
Oui, absolument.
Alors comment ça se passe d'ailleurs ? Comment est-ce qu'on suit le Tour de France ? Vous préparez tout ça à l'avance ? Vous suivez les entraînements ? Vous connaissez les équipes, bien entendu ?
Bien sûr, on prépare. Il y a un travail de 2-3 semaines parce qu'on travaille évidemment sur d'autres événements sportifs que le Tour de France. Mais il y a un travail sur 2-3 semaines pour mettre à jour les fiches, les différents coureurs, les différentes équipes. Parce que tous les ans, ça change. Il y a des nouveaux visages, des nouvelles équipes qui apparaissent. Donc effectivement, il y a un travail qui est fait en amont. Et puis après, j'ai envie de dire, le Tour de France, c'est une telle machine qu'on se laisse embarquer par cette machine. Qui est le Tour de France. On l'a subi presque, notamment sur la fin où c'est un peu fatigant.
Et vous-même, Alban, vous êtes un spécialiste de l'histoire du Tour. Ça vous intéresse ce qui s'est passé avant, je dirais même avant votre enfance, hein, les années 50, les années 60, la grande époque mythique du Tour.
Bien sûr, je suis un passionné de vélo, un passionné du Tour de France. J'ai 25 ans, donc je n'ai pas connu ces époques-là. Mais je pense que c'est important de connaître l'histoire déjà en règle générale. Et après, quand on est passionné par quelque chose comme le vélo, c'est effectivement important de savoir ce qui s'est passé dans ces années 50, dans ces années 60. C'est aussi le début, j'allais dire, du nouveau Tour de France. À ce moment-là, le Tour de France qui devient aussi un outil un petit peu commercial. C'est important de savoir ce qui s'est passé durant ces années, même si, je l'avoue, je pense que Jean-Paul Olivier est plus calé que moi, notamment sur ces années.
Ça prend un tour commercial, notamment avec cette caravane extraordinaire qui devient une sorte d'énorme barnum qui débarque à chaque étape, bien entendu. Il fut un temps, Jean-Paul Olivier, et ça n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui. C'est toujours un événement, le Tour de France, même un grand événement à l'échelle internationale. Mais il fut un temps où tout s'arrêtait pour suivre le Tour. Les deux dernières heures de chaque étape mettaient le pays en arrêt. Tout le monde avait l'oreille collée au poste de radio dans un premier temps et puis un peu plus tard au transistor.
Le transistor, c'est un petit peu après, effectivement, ouais. Mais au début, c'était le grand poste, le large poste. Et puis, certains n'avaient pas la radio. Donc, c'était par la presse régionale. La presse régionale faisait un très gros effort pour le Tour de France parce que, je me souviens, puisque je suis breton dans l'Ouest, donc, les journaux paraissaient avec les noms des coureurs régionaux en gras. Donc, on pouvait situer exactement la position des coureurs régionaux.
On appelle le régional de l'étape.
Voilà.
Alors, il y a eu un certain nombre de très grands coureurs dont le nom reste attaché à la légende du Tour. Je pense à Louison Bobet, entre autres.
Louison Bobet constitue un exemple dans le monde du sport cycliste. Bobet était un grand sportif, mais il n'était peut-être pas tout à fait cycliste, si vous voulez. Ça aurait été un bon joueur de football, un bon joueur de tennis de table, il a été champion d'ailleurs, mais il lui manquait quelque chose dans le domaine du sport cycliste. Mais c'est ce sport-là qu'il affectionnait, et il a tout mis en œuvre pour réussir dans ce sport. Il a fait des sacrifices énorme. Vous savez, il a été en 1955 aux portes de la mort. Il a failli, avoir une septicémie. On lui a retiré des boules de chair morte. Ça a été terrible. Et il est allé au bout de la souffrance. Moi, je crois que Louison Bobet s'est littéralement sublimé et on peut lui rendre hommage, effectivement.
Est-ce que finalement le Tour de France, ça n'est pas la version moderne de toutes ces très grandes catharsis d'autrefois, du Moyen-Âge, de la Renaissance, lorsqu'on voulait voir souffrir l'être humain et se dépasser, en quelque sorte. Le Tour de France, c'est peut-être dans le monde moderne le moment où l'on se dépasse soi-même.
Je crois que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'histoire qui se répète. Vous savez, on dit d'une manière générale que l'orfèvrerie du Tour de France, ce sont les cols pyrénéens et alpestres. On vient voir les coureurs souffrir dans les cols. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut qu'il y ait de l'effort sublimé.
Le Tour de France était un événement majeur en France dans les années 40-50, mais il l'était aussi à l'étranger. Je cite cet exemple, on est le 14 juillet 1948, il y a une énorme crise politique en Italie, le chef du parti communiste italien, Togliatti, a été grièvement blessé, il a été victime d'un attentat de la part d'un jeune néo-fasciste, et on peut dire qu'à ce moment-là, le pays est littéralement au bord de la guerre civile. Or, il y a un premier ministre remarquable du reste, Gasperi, hein, Alcide de Gasperi, qui téléphone à Bartoli et qui lui dit Gino, ça va très mal. Est-ce que tu penses pouvoir gagner le Tour ? Seulement, à ce moment-là, on est donc en 48, et ça lui paraît quasiment impossible de gagner le Tour. Et bien néanmoins, il va se dépasser. Il va gagner successivement toutes les grandes étapes de montagne. Et finalement, il arrive vainqueur du Tour de France avec une demi-heure d'avance sur le deuxième. Et on peut dire que l'exploit a permis cette année-là à l'Italie de passer à côté d'une crise qui aurait pu être gravissime.
Ouais, à côté d'une révolution.
Une révolution.
Mais en vérité, bon, on embellit un peu la légende.
Ah,
je pense que Bartali aurait gagné le Tour de France. C'est Louison Bobet était arrivé presque à crachexie, quoi. Il n'en pouvait plus. Il souffrait du pied, etc. Il traînait un maillot jaune depuis longtemps, depuis l'étape de Nantes où l'APB l'avait emporté. Et il était au bout. Il était à bout de force. Et Bartali était encore très fort. Bartali, vous savez, c'était un type solide. Vous savez, il était ombrageux. On l'appelait Gino le Pieux, etc. Bon, il y a toute une aura autour de Bartali. Et Bartali partait pour gagner le Tour. Et il se trouve qu'il y a eu quand même deux étapes très difficiles. Il y a eu Cannes-Briançon, Briançon-Aix-les-Bains. C'était des étapes où Bobet, bon, s'est surpassé, certes, mais il ne pouvait plus suivre. Bartali, lui, s'est envolé. Et il gagne le Tour à 10 ans d'intervalle.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire.
48,
il y a ces grands champions qu'on voit ressurgir progressivement. Alors, évidemment, on va parler d'Anquetil, de Zoutemelk, de Merckx et puis d'autres champions plus récents. Nous nous retrouvons dans un instant en compagnie d'Alban Le Poivre et de Jean-Paul Olivier pour parler, vous l'avez bien compris, du Tour de France. C'est la grande saga qui occupe aujourd'hui la dernière émission de l'année, vous vous rendez compte ?
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes précisément au cœur de l'histoire du Tour de France. On en parle avec vous, bien sûr, Franck, et vos invités.
Nous parlons donc aujourd'hui du Tour, de la légende du Tour de France, mais aussi de sa réalité en compagnie de Jean-Paul Olivier et d'Alban Le Poivre. Quels sont pour vous les très grands coureurs de l'histoire du Tour, Alban Le Poivre ? On a parlé de Bobet, on vient de dire un mot de Bartali, effectivement. Quels sont les autres grands noms que vous retiendriez si on devait faire une sorte de panthéon du Tour ?
Le premier, moi, qui me vient à l'esprit, on parlait de l'histoire du Tour tout à l'heure, le premier qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Eddy Merckx, le cannibale. C'était un magicien quasiment sur le vélo, personne ne pouvait le battre. Et puis ensuite, on peut parler, on va être un petit peu chauvin aussi, Bernard Hinault, évidemment, Bernard Thévenet, notre camarade Laurent Fignon, qu'on a bien connu évidemment sur Europe 1. On parlait aussi de la longévité des coureurs de Bartali, 38-48. Laurent Fignon, il le gagne en 82, en 83, en 89, il est à 8 secondes de le gagner. Là aussi, c'est une preuve que Laurent Fignon était un très grand coureur. Moi, celui que je retiens principalement, c'est évidemment Eddy Merckx. Et puis, dans une histoire plus récente, Miguel Indurain, dans les années 90, c'était celui qui dominait le Tour de France.
Bien
à
sûr.
Ce moment-là.
On a l'impression que ce Tour de France transcende les générations et que ça permet parfois aux petits-enfants de communiquer directement avec les grands-parents, voire avec les arrière-grands-parents. Il y a une sorte de continuité dans l'amour du Tour.
Bien sûr. Moi, j'ai des souvenirs incroyables en vacances. Quand j'avais 9, 10 ans, 11 ans, on regardait le Tour de France sur la télévision de mes grands-parents, avec mon père. Ça rassemble des générations. Le Tour de France a cette capacité à pouvoir rassembler des générations. Et mes grands-parents ou mon père, par exemple, n'étaient pas des fans de sport, mais le Tour de France, c'est un peu comme Roland-Garros. Ça rassemble pas forcément les fans de sport, mais c'est un tel événement. On aime regarder le Tour de France et ça rassemble vraiment les générations, je pense.
Alors, quelques profils de géants avec vous, Jean-Paul Olivier. Anquetil, on a parlé de Bobet, mais Anquetil était le grand homme de...
Oui, Anquetil était un personnage racé, vous savez, il avait l'absolu du cyclisme, vous savez, dans l'attitude, dans la position. Ça, c'était pas un besogneux du vélo, il est arrivé là, il avait une aura fantastique. C'était un excellent rouleur, et lorsqu'il était amateur, déjà, il remportait des étapes contre la montre, il était très bien assis sur sa selle, il avait une très très belle position. Vous savez, lorsqu'il est arrivé vraiment dans les pelotons, on s'est dit, il va aller loin. Il va aller loin parce que il est excellent contre la montre et il écrase tout le monde contre la montre. Et du reste, en 1953, quand il passe professionnel, drivé par Francis Pélissier, qui était une sorte de sorcier, qui avait été coureur lui-même, bien lorsqu'il arrive là, il gagne le Grand Prix des Nations, il gagne le Grand Prix de Lugano, tout de suite. Il a 19 ans. Et là, on se dit...
Il s'impose d'emblée, lui.
C'est un grand, c'est un grand. Parce que lorsque Pélissier l'a repéré, il a été repéré par un type qui s'appelait Guillaume Mercader, qui était le représentant des cycles La Perle. Vous savez, Pélissier avait des missis de minissis un petit peu dans toutes les provinces, et il signalait par des courriers ou par des coups de téléphone, parfois, il signalait la position un petit peu des régionaux. Et donc... Pélissier va suivre un petit peu la carrière d'Anquetil. Et un jour, il le convoque. C'était au mois de septembre 53. Il le convoque et il lui dit, bon, d'accord, je vais te prendre, tu vas me faire, dans quelques jours, c'était, je crois que c'était le mercredi qu'il était là, tu vas faire dimanche le Grand Prix des Nations. Alors Anquetil dit, mais je suis encore amateur, j'ai pas prévenu mes parents, j'ai pas prévenu M. Boucher, qui était son mentor à Sotteville-lès-Rouen. On dit, de toute façon, ils vont savoir où tu es parce que tu vas gagner. Donc il dit, voilà, tu passes pro, etc. Et il dit à la presse, dimanche, je vais faire gagner un gamin. Et ce gamin a gagné. Et vous savez, lorsqu'un coureur est excellent de cette façon contre la montre, eh bien, c'est un vainqueur potentiel de tout. Du Tour de France, de toutes les épreuves que vous souhaitez. C'est un vainqueur potentiel. Si bien qu'Anquetil, on disait toujours qu'il gagnait le Tour sur les étapes contre la montre, à partir des étapes contre la montre. Ce qui n'était pas faux, et ce qui a amené les dirigeants du Tour de France
à
modifier leur tracé, leur modifier leur profil et mettre un peu plus de montagne dans leur tracé. Et Anquetil a quand même gagné. Ça prouve que c'était un beau champion.
Alors Alban Le Poivre parlait d'un autre très grand champion, Eddy Merckx, dont on a découvert d'ailleurs assez récemment qu'il souffrait d'une maladie chronique du cœur. Oui. Ça, c'est une découverte tardive.
Il avait un souffle au cœur, effectivement. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de l'emporter. C'est vrai que c'était un super. Puis un garçon qui ne laissait rien au hasard, qui savait travailler ses épreuves, qui savait se préparer. Qui savait très bien se préparer.
Ça a été en fait le premier, on va dire, grand professionnel du Tour de France, effectivement, qui préparait les étapes à l'avance. Ça a été sûrement l'un des premiers qui a pris le Tour de France comme un véritable objectif et il faisait tout pour le gagner.
À son époque, oui, mais... Coppi, auparavant, avait été un grand aussi dans le domaine de la préparation. Vous savez, c'était les germes de blé, c'était les différentes méthodes. Et il avait rencontré un jour un diététicien et il avait raconté à ce diététicien ce qu'il faisait. Et le diététicien lui dit, non seulement il applique mes méthodes, mais il les a améliorées.
Il ne faut pas oublier qu'autour de ces champions, il y a eu toujours cette presse très, très enflammée. Évidemment, les reporters de radio, puis de télévision depuis une trentaine ou quarantaine d'années. La télévision, d'ailleurs, a joué un très grand rôle aussi dans l'évolution du Tour de France et dans le type d'épreuve qu'on a voulu, d'étape qu'on a voulu créer. Les correspondants de presse également. J'ai cité un certain nombre de grands noms tout à l'heure, de grands auteurs. On peut dire qu'il y a autour du Tour de France une mythologie au sens propre qui s'est créée. Cette mythologie intègre évidemment la caravane. Quand le Tour de France arrive quelque part, ce ne sont pas seulement les coureurs, c'est tout ce qu'il y a autour. Et nous avons en ligne Daniel Mangias. Je suis ravi d'avoir Daniel Mangias au téléphone. Vous êtes le speaker officiel du Tour de France, Daniel Mangias.
Eh oui, bonjour.
Bonjour. Donc vous avez vous êtes la voix du Tour, disons-le.
Oui, absolument. Enfin, c'est ce que l'on dit. Hein. Donc, oui, ça va être ma 39e participation cette année. Et c'est très bien parce que ça me permet de faire perdurer l'enfance tout en étant adulte.
Vous en avez connu des Tours de France, évidemment. Quel est le rôle du speaker? Expliquez-nous pour ceux qui n'auraient jamais assisté à une étape du Tour. À mon avis, rares sont nos auditeurs qui n'ont jamais assisté, qui n'ont jamais vu passer le Tour, mais on ne sait jamais.
Alors, le rôle du speaker, eh bien, c'est le matin de présenter tous les coureurs avec le palmarès au public, de les mettre en valeur. Et puis parfois, eh bien, de permettre au public de mettre un nom sur un visage. Certes, il connaît les stars, mais il connaît un petit peu moins les coéquipiers, les coureurs modestes. Donc, c'est de mettre en lumière donc, ceux qui sont évidemment les acteurs du Tour de France. Ensuite, eh bien, mon rôle est de rejoindre la ligne d'arrivée. Et puis, vous parliez de la télévision tout à l'heure. Donc, j'ai un écran de télé. Pendant les deux dernières heures, eh bien, on assure déjà avec un collègue, François Bellé, l'arrivée de la caravane du Tour de France. Et puis, je commande donc les deux dernières heures pour le public qui est sur le bord, qui est sur la ligne d'arrivée, du moins pour qu'il bénéficie évidemment des informations et de l'ambiance.
Et sans vouloir vexer quiconque, il y a des publics plus chaleureux que d'autres en fonction des régions traversées?
Quand on est en Bretagne, et comme Jean-Paul Olivier est là, donc français, quand on est en Bretagne, on est vraiment dans une ambiance particulière. Dans le Nord-Pas-de-Calais également, il y a cette passion.
Une ferveur, oui.
Ouais, ouais. La Normandie aussi, puisque c'est la terre de Jacques Anquetil, la Bretagne, oui, c'est celle de Bobet Robecq.
Et la vôtre aussi, Daniel.
Oui,
vous êtes du Mont-Saint-Michel, vous.
Voilà, et oui, on est tous Mais c'est vrai que le Tour de France, quelles que soient les régions de France, et c'est vraiment toute la France sur le bord de la route, on a la chance dans notre pays d'avoir la plus grande épreuve cycliste du monde, qui est l'événement sportif annuel le plus télévisé dans le monde. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que tout enfant a vu un jour ou l'autre le passage du Tour de France, soit une arrivée, soit sur le bord de la route avec ses parents. C'est la fête de la France qui dure pendant un mois, autour de trois semaines, quoi.
C'est une très grande fête, c'est l'équivalent de ce qu'était autrefois l'arrivée des grands cirques dans les petites villes. Hein. On peut dire que la région entière se met aux couleurs du Tour quand vous arrivez.
Oui, absolument. Moi, j'étais gamin, on jouait au petit coureur sur le mur de l'église avec les copains. Et puis un jour, il y a 10 ans de ça, en 2002, eh bien, dans mon village de 1200 habitants, on a pu accueillir le départ du Tour de France un 14 juillet, qui plus est. Donc c'était quelque chose, c'est à la fois... C'est la fête, et puis pour les villes qui accueillent le Tour, ou les villages comme le mien, c'est une vraie fierté que d'accueillir un événement mondial. Je crois que c'est le seul sport, on ne fera jamais les Jeux Olympiques dans une commune de 1000 habitants, on ne fera jamais une Coupe du Monde de football ou dans une commune de 1000 habitants, mais en revanche, le Tour de France peut passer.
Ses
stars dans une petite localité.
Extraordinaire. Merci beaucoup Daniel Mangias.
Merci.
Soignez votre voix pour être prêt samedi.
Oui, il faut être prêt Daniel.
J'ai eu une infection hier, mais demain ce sera beaucoup mieux.
Merci beaucoup.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La foule attend le Tour de France. À quel tintamarre, à quel pavé dans la mare. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Ça s'est fait dans un éclair, au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord. C'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor sur son vélo, faisant corps avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort. Et voilà, c'est lui le plus fort. Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs, il pédale tout en douceur.
Marcel Amont sur Europe 1 qui nous parle du maillot. Mais oui, Franck, le célèbre maillot jaune, on vous retrouve jusqu'à 14h encore, une dizaine de minutes. Dernière ligne droite au cœur de l'histoire.
Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Alban Lepoivre de la rédaction d'Europe 1 et Jean-Paul Olivier, le monsieur cyclisme, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que depuis 1975, vous avez vu évoluer le Tour de France? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que l'épreuve a évolué depuis quarantaine d'années?
Et il faut prendre le postulat de base. Le monde entier a changé.
Bien sûr.
À partir du moment où le monde entier change, les vélos changent, les routes se transforment. Tout se transforme. La pharmacopée se transforme.
La pharmacopée, sans vouloir en faire des tonnes, évidemment, on est bien conscient que l'image du Tour a été affectée depuis quelques années par toutes ces histoires de dopage. Néanmoins, on a l'impression que la légende du Tour survit à toutes ces attaques.
Hein. Je crois qu'elle n'a jamais été écornée. C'est ça qui est extraordinaire. On a l'impression que le public n'a pas conscience de ce qu'est le dopage. Parce que le public qui est sur le bord de la route, qui voit les coureurs dans l'école, ou qui les voit passer, etc., ils ne se rendent pas compte de ça. Pour eux, ce sont toujours les coureurs qui évoluent. Et... Dopage, non. Or, le dopage a évolué, si j'ose dire. Il a évolué dans sa forme et dans le fond. Parce que vous savez, les pharmacies ont fait des progrès, les produits ont fait des progrès. Donc, on est passé des amphétamines aux corticoïdes, des corticoïdes à l'EPO, etc. Donc, si vous voulez, c'est une évolution, si vous voulez. C'est une évolution. Alors, il faut arrêter tout cela. Il faut arrêter tout cela, et c'est la raison pour laquelle maintenant la lutte antidopage accomplit des progrès considérables.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, Alban Lepoivre, une lutte anti-marketing aussi, ou anti-explosion des marques qui viennent littéralement se greffer sur la caravane du Tour et sur les coureurs eux-mêmes?
Ce serait compliqué parce que le vélo aujourd'hui, il vit grâce à ces marques qui viennent à la fois sponsoriser des équipes pour lesquelles les coureurs courent et qui viennent également dans la caravane, par exemple, pour faire la promotion de leur marque auprès du public. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo aujourd'hui, je pense que c'est avec la voile le seul sport qui est gratuit. pour le public. Vous allez voir un match de foot, un match de rugby, vous payez votre place pour aller voir votre équipe. C'est aussi avec ça.
On imagine mal de faire payer les spectateurs le long des routes.
Oui, mais quand même, c'est la réalité économique est là pour organiser le Tour de France. Il faut de l'argent et l'argent, le ASO, l'organisateur du Tour, n'en a pas avec des revenus de billetterie. Chose qu'ont la Fédération française de foot, de rugby, tous les sports en fait ont des revenus grâce à la billetterie. Aujourd'hui, il faut bien que pour le Tour de France, pour que le cyclisme vive, il faut qu'il y ait des marques qui soient présentes. Mais aujourd'hui, l'organisation du Tour de France arrive quand même, j'allais dire, à verrouiller, à faire en sorte qu'il y ait quelques marques qui soient présentes. Ils font attention à l'éthique de la marque et ils font attention aussi à ne pas en prendre non plus trop, parce que sinon ça deviendrait vraiment un outil trop commercial et le public s'en rendrait rapidement compte.
Jean-Paul Olivier.
Oui, vous évoquiez la caravane publicitaire tout à l'heure. C'est très important d'y revenir, parce que jusqu'en 1930, le Tour de France se déroulait par équipe de marques, par équipe de cycles. Or, il y avait des connivences, des collusions entre les coureurs des différentes marques. Et Henri Desgranges, à un certain moment, décrète que le Tour de France sera organisé par, si j'ose dire, l'organisation elle-même, c'est-à-dire plus de marques. Désormais, le Tour de France, la direction du Tour de France aura la main mise sur les formations. Or, pour cela, il fallait de l'argent. Ce n'est pas l'auto qui allait tout supporter. Donc, ils ont créé la caravane publicitaire. Ils ont fait venir le chocolat Meunier, ils ont fait venir les réveils Bayard, ils ont fait venir le fromage Graff, etc., etc. Et c'est comme ça que donc, ça a pu démarrer. Et ça a été une innovation fantastique, parce que ça a régénéré le Tour, ça lui a donné un aspect beaucoup plus festif. Et c'est à partir de 1930, à partir de la création des équipes nationales, qu'on a eu ce genre de spectacle.
Vous me donnez envie de consacrer une émission à la rentrée sur la publicité dans les années 30, qui effectivement a régénéré non seulement le Tour de France, mais d'une façon plus générale, la société elle-même. Ça a été le grand phénomène, peut-être, du point de vue social, dans les années 30. Alors, on a évoqué, évidemment, Bobet, Anquetil, Merckx, etc. Dans la période plus récente, Alban Le Poivre parlait de nos grands Français, il parlait de Bernard Thévenet, bien sûr de Bernard Hinault, ce sont de grands héros pour nous. On a plus de héros français comme ça, actuellement.
Non, on a eu des creux, vagues, abyssaux, si j'ose dire, parce que c'est très difficile d'abord de faire un champion. Donc on a eu Bernard Thévenet, qui était un bon coureur, qui a piétiné dans les allées du pouvoir, si j'ose dire, pendant de longues années, qui a gagné des étapes autour, qui a été champion de France, etc., et puis qui, d'un seul coup, donc, a réussi à faire, à débouler Merckx de cette caste un peu des intouchables, quoi. Et donc là aussi, ça a été fantastique, ça a redonné à un autre aspect sportif aux Français, pour les Français. Parce que là, il a fait plier Merckx, tout est reparti. Et puis on a eu derrière donc Bernard Hinault qui, en 78, le creux n'a pas été trop long là, en 78, donc Hinault est apparu pour remporter son premier Tour de France. Il était champion de France déjà.
Qui sont aujourd'hui les très grands champions ?
Vous savez, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui sont favoris aujourd'hui, c'est-à-dire les Evans, les Schleck qui participent pas au Tour de France, enfin l'un d'entre eux en tout cas.
Andy,
oui. Bon, ce sont eux qui sont en passe de remporter ou un autre Tour de France ou de l'emporter tout simplement. Donc, pour l'instant, on est en train de voir un petit peu qui peut dominer le Tour dans ces 7 ou 8 prochaines années. Et on regarde aussi si, du côté des Français, parce que faire un champion, si l'on peut dire, c'est très dur.
À l'hésitation dans votre voix, Jean-Paul Olivier, si inhabituelle, je sens bien qu'il manque peut-être un ou deux très grands champions cette année, Alban.
Bah oui, et on l'a dit, il manque Andy Schleck, il manque Alberto Contador, qui sont absents pour deux raisons différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal depuis peut-être quelques années à avoir un champion avec un caractère qui ressort. Parce que tous ces champions dont on a parlé, ce sont des champions qui avaient un caractère, qui dégageaient quelque chose. Même Laurent Fignon, avec sa crête blonde, il dégageait quelque chose de par son physique. Bernard Hinault également, Eddy Merckx également, même Miguel Indurain.
Ils incarnaient
quelque chose. Ils avaient quelque chose dans le regard, dans la façon de pédaler, dans la façon de faire cette course, ils avaient quelque chose qui se dégageait. Aujourd'hui, c'est vrai que de par la surprofessionnalisation des courses et des coureurs, Cadel Evans qui a gagné le Tour de France l'an dernier, il dégage pas forcément grand-chose. Il est là pour gagner, point final.
mais vous aviez auparavant de très grosses personnalités dans le Tour. Vous savez, vous avez un garçon dont on ne parle pas, qui s'appelle Raphaël Gémignani.
Eh oui.
Raphaël Gémignani, à un certain moment, Charlie Gaulle dominait le Tour de France. Et Bobet avait peur. Bobet, on l'appelait Bobette la pleureuse. Il était toujours très inquiet. Et Bobet disait, ah, demain, Charlie Gaulle, il va encore le faire la fête. Il a gagné à Briançon aujourd'hui, demain. Et Gémignani, excédé à table le soir, dit, demain, il tape sur la table, il dit, demain, votre Gaulle, je me le paye. Et il est parti, il a gagné l'étape à Monaco. Donc il y avait une très forte présence de certains coureurs. Et ça faisait parler l'épopée. Vous savez, vous parliez du développement de la presse. La presse, vous savez, avec des titres comme ça.
Ah, c'était formidable, ça, évidemment. Bon, ne soyons pas trop nostalgiques. Je suis certain que nombreux seront dès demain nos auditeurs à suivre cette nouvelle édition du Tour de France. Nous avons parcouru un siècle de vélo grâce à vous. Merci beaucoup Jean-Paul Olivier. Merci Alban Le Poivre. Nous allons donc vous suivre tous les jours et sans doute interromprez-vous de temps en temps cette émission. Mais vous savez que vous êtes toujours les bienvenus.
Vous
merci
aussi.
Beaucoup. Merci. À tous de nous avoir été si fidèles pendant toute cette année. À partir de lundi, ce sont des rediffusions qui vous attendent. Et puis, bien entendu, dès la fin du mois d'août, nous arrivons avec plein nos valises, énormément de nouveaux sujets, de nouvelles aventures pour vous faire vibrer à travers les siècles. Au cœur de l'histoire, c'est le titre de cette émission. C'est aussi l'ambition que nous avons de vous promener, de vous emmener, de vous entraîner avec nous sur ces sentiers du passé. Merci beaucoup à tous et bonnes vacances. We'll be right back.